On va regarder ce qui se passe en ce moment du côté de la Russie. Parce qu'il y a peut-être un point de bascule qui est en train de se mettre en place. Point de bascule avec des files d'attente concernant les voitures, les citoyens qui veulent faire leur plein. L'Ukraine qui continue d'envoyer des drones sur le pays de Vladimir Poutine. La guerre en Ukraine, le grand ras-le-bol des Russes. C'est ce qu'on va voir avec vous maintenant, Nargis Hadji. Bonsoir.
Bonsoir Alain. Plusieurs signaux donc montrent peut-être un début de mécontentement en Russie. D'abord, sur le front, des soldats russes dénoncent les conditions de guerre. Ici, c'est un déserteur qui affirme que certains militaires sont exécutés non pas par l'ennemi, mais par leur propre commandant. « Ne me tuez pas !» criait-il. Ne me tuez pas, criait-il. Ensuite, ce que l'on voit, c'est une maman de soldat qui raconte « Tout le groupe de mon fils a disparu au combat et porté disparu, je vous en supplie, aidez-moi à le retrouver. » Les familles qui dénoncent donc un système qui retarde, peut-être même empêche le versement des indemnisations. Et à l'arrière, le quotidien se dégrade également pour les civils, notamment depuis l'intensification des attaques de drones ukrainiens sur la Russie et ses raffineries. Résultat, on va le voir ensemble, de longues file d'attente devant les stations-service, des voitures qui patientent parfois pendant plusieurs heures avant de pouvoir faire le plein. Et les réseaux sociaux russes regorgent de messages d'habitants qui ne parviennent plus à faire le plein, alors que Moscou, on le rappelle, est le troisième producteur mondial de pétrole brut. Et dans certaines régions, les difficultés vont plus loin. C'est ce que racontent des médias locaux, des coupures d'électricité, des réductions de lignes de bus, des perturbations de plusieurs services, notamment le ramassage des ordures par exemple. Et Ferrari, Vladimir Poutine, le chef du Kremlin, reconnaît désormais que la Russie traverse une période difficile. Écoutez.
Nous traversons une période difficile, une étape éprouvante. Mais cela nous a beaucoup appris. Cela nous a permis de ressentir l'essence même de ce que signifie être citoyen de la Russie.
Voilà, nous sommes avec Paul Gogo, qui est habituellement le correspondant de BFM TV en Russie. Bonsoir Paul.
Bonsoir.
C'est la première fois qu'on voit une population peut-être exaspérée après 4 ans de guerre. C'est nouveau en Russie,
ça ? Ils découvrent que la guerre existe, oui, c'est finalement assez nouveau parce que c'est du quotidien, c'est tout bête. Il y a un côté angoissant un peu de vous lever le matin et de ne pas être sûr de pouvoir mettre de l'essence dans votre voiture parce que c'est d'habitude un réflexe du quotidien. Et de le voir disparaître du jour au lendemain comme ça, ça fait un peu bizarre pour les Russes, surtout ceux qui faisaient l'autruche. Sur tout ce qui était lié à la guerre jusqu'ici. Donc oui, il y a vraiment quelque chose là. Il y a une prise de conscience de la population.
Mais pourquoi la Russie manque de pétrole ?
C'est vraiment des semaines et des semaines de travail de la part de l'Ukraine, avec vraiment précision, beaucoup de raffineries touchées, des hubs, des moyens de distribution. Tout ça a été bien étudié par les Ukrainiens, bien calculé. Ça s'est intensifié ces derniers jours. Et le résultat, c'est que ça touche les bus de ville, les camions de poubelle, les agriculteurs. Il y a des grosses difficultés aujourd'hui dans l'ensemble du pays.
Ulysse Gosset, c'est assez rare d'entendre le président russe reconnaître qu'il y a des problèmes.
C'est la première fois en réalité qu'il va aussi loin et qu'il reconnaît effectivement qu'il y a des pénuries. Il ajoute que ce ne sont pas des pénuries qui suscitent une situation critique, mais quand même il reconnaît qu'il y a un manque d'essence et il affirme que tout va être fait pour rétablir la situation. Mais vous demandez pourquoi la Russie n'a pas de pétrole ? Elle a du pétrole, mais il y a 30% d'exploitations de Russie qui ont été touchées par des drones ukrainiens. Et donc tout le système de distribution de l'énergie russe a été perturbé. Ce qui fait que dans plusieurs villes, et même en Crimée, et je dirais surtout en Crimée, il est maintenant interdit aux civils d'acheter de l'essence et cette essence est réservée aux troupes sur le front en Ukraine. Donc Poutine a dû faire un choix. Et pourquoi l'a-t-il fait ? Parce que il ne peut plus cacher la guerre qu'il a toujours appelée opération spéciale. Aujourd'hui, on voit les raffineries qui brûlent, on voit les drones qui atteignent par exemple le sommet économique qui a lieu à Saint-Pétersbourg. Donc en pleine réunion internationale destinée à vanter les mérites de la Russie, on voit des fumées noires à l'extérieur de la ville, on voit des fumées noires à l'extérieur de Moscou et dans des villes jusqu'en Sibérie. Ce qui fait que les Russes maintenant au quotidien voient ce que représente la guerre. Et c'est la raison pour laquelle Poutine, on a vu cette image impressionnante, c'est devant le parti de Poutine qui prépare les prochaines élections de l'automne prochain. Il a dû admettre qu'il y avait des difficultés pour essayer de resserrer ses troupes et faire face à ce qui est quasiment inédit depuis le début de la guerre.
Selon un sondage qui vient d'être publié, le pessimisme économique est à son plus haut niveau depuis 2 décennies en Russie. Les Russes sont pessimistes. Général Pellissandi, c'est aussi la réussite de l'armée ukrainienne, les drones ukrainiens qui attaquent notamment la Crimée russe et qui pourraient aussi très bien menacer Moscou.
Alors déjà, il menace, il frappe Moscou et notamment ses infrastructures dont on a parlé autour de l'énergie. Il faut souligner en fait l'extraordinaire adaptativité des Ukrainiens. En fait, c'est David contre Goliath. Le rapport de force, de toute façon, classique, il reste en faveur des Russes militairement, mais les Ukrainiens ont trouvé des alternatives, et en particulier autour de la fabrication de drones, avec un panel de capacités qui est extrêmement impressionnant et des innovations permanentes. Ça va du petit drone du champ pour le champ de bataille pour aller éliminer un combattant russe jusqu'à des missiles de croisière capables de frapper dans la profondeur en Russie. Et ça, eh bien, Vladimir Poutine s'y attendait pas. Et donc, il est obligé de consacrer une grande partie de ses capacités militaires, désormais, à défendre son espace aérien.
Et il a pas assez de missiles pour protéger la Crimée, pour protéger Moscou ?
Ah ben non, et c'est ça ce qui est absolument incroyable, c'est que au départ, il n'y a pas photo entre l'armée de l'air russe et l'armée de l'air ukrainienne, et au final, on a une armée de l'air russe totalement incapable de défendre son espace aérien, des missiles qui, alors, un certain nombre de drones sont interceptés, mais voilà, le russe de Moscou, de Saint-Pétersbourg, la guerre, elle est maintenant chez lui. Et ça, c'était pas du tout prévu dans l'opération spéciale militaire de Vladimir Poutine.
Oui, Mariana Pérez-Bénissiouk, bonsoir.
Bonsoir.
C'est un moment important après 4 ans de guerre, ce qui est en train de se passer en Russie, ou pas?
Oui, c'est un moment important. Pourquoi? Parce que, en fait, cet épisode, elle casse l'illusion qu'on avait que les Russes sont soumis, qu'ils ne peuvent pas manifester, qu'ils ne peuvent pas protester, et qu'ils ont peur des autorités pour exprimer leur mécontentement. C'est absolument pas vrai. Par ailleurs, tout au long de ces 30 années, ils exprimaient leur mécontentement, et comme vous pouvez le voir, de manière quasi hystérique, mais pas pour cause de guerre, quand la Russie mène des guerres à l'étranger, pour cause de prix, pour cause de prix ou d'absence de l'eau, de l'électricité. C'est typiquement les griefs principaux quand ça arrive. Et quand ça arrive, ça va crescendo et ça va très très vite. Notamment, il y a une sorte de mode opératoire très courant en Russie des manifestations, c'est de couper tout de suite l'autoroute de ce qu'on appelle l'autoroute fédérale. C'est pour vous dire, il ne faut pas avoir peur pour faire ça. Et ça a un impact, un effet très important sur le psyché russe. Et ce n'est pas nouveau. Pour vous donner une petite illustration, en 89-91, quand il y avait déjà des États, des républiques de l'Union soviétique qui proclamaient leur indépendance, il ne se passait rien à Moscou. La première et l'une des deux grandes manifestations qui a eu lieu, monstre, qui a eu lieu à Moscou, la première, c'est ce qu'on appelle la rébellion des tabacs, parce qu'un jour, on n'a pas approvisionné les kiosques des tabacs, et là, tous les moscovites sont sortis dans la rue. Et c'est même là la question qui se pose, parce que là, il n'y a pas d'essence. Mais cela veut dire que d'ici une semaine ou deux, il n'y aura probablement pas de nourriture.
Ouais, mais là, au moins. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voyait une colère des Russes qui s'exprime sur les réseaux sociaux de plus en plus, elle qui pourrait s'exprimer dans la rue.
C'est une question, une éternelle question, parce qu'effectivement, il y a ce point de vue de considérer que les Russes ne vont s'inquiéter, ne vont commencer à protester que quand on touche à leur vie quotidienne. C'est vrai que quand
c'est pas d'ailleurs que c'est pas que les Russes comme
c'est
ça.
C'est assez humain, général, je pense, comme situation. Oui.
Quand on commence à manquer de quelque chose, comme en Iran.
Surtout des choses du quotidien. S'il y a un côté un peu stressant, c'est vrai qu'il y a des choses un peu plus anodines qui ont pu un peu agacer les Russes à certains moments, notamment quand les sanctions sont apparues. Mais en réalité, s'ils s'inquiètent pas, s'ils ne manifestent pas contre la guerre, les Russes, c'est parce qu'en fait, on les a fait grandir, évoluer pendant des années, avec une certaine rhétorique sur cette guerre, et qu'ils ne voient pas le problème de cette guerre pour le moment. Ensuite, de là, aller voir descendre dans la rue, il y a une crainte qui est commune à toute l'opposition russe, nationaliste, libérale et même au pro-Poutine. C'est l'idée que ça puisse finir en bain de sang, en guerre civile. Et je pense qu'il faudrait il faudrait une situation vraiment gravissime pour que ça finisse dans la rue. À mon avis, l'idée qu'une ligne dure puisse tenter un putsch ou que l'élite puisse se retourner d'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose qui est déjà un peu plus imaginable. On va dire.
Il y a les chauffeurs routiers qui ont fait déjà un mouvement très important il y a quelques années. Et là, puisque ça touche à l'essence, on peut imaginer la résurgence de ce mouvement qui s'apparentait aux Gilets jaunes en France.
Ouais, Aram Kalou, vous êtes cofondateur de la société Dronivka. Donc c'est le, bonsoir, c'est le,
bonsoir.
Ce sont les drones ukrainiens qui sont en train de mettre à mal la Russie de l'intérieur ?
Tout à fait, comme on le disait tout à l'heure, l'Ukraine elle a développé un énorme savoir-faire sur ses 4 ans de guerre autour du drone. Effectivement multi-types. On a des drones qui peuvent tuer une personne, on a du drone qui peut faire une interception d'un autre drone. Et un des savoir-faire aujourd'hui ukrainien qui est particulièrement important, c'est le savoir-faire autour du drone, de la frappe en profondeur. Donc, je pense qu'on a vu les annonces la semaine dernière ou il y a 2 semaines à Eurosatory de Firepoint qui en est le constructeur le plus connu. De plus de 5000 personnes. Il faut savoir que ces drones, ils mettent à mal la Russie aujourd'hui, mais c'est tout un savoir-faire derrière qui existe, que les Ukrainiens ont développé, par exemple un savoir-faire sur la reconnaissance pour identifier toutes les défenses antimissiles en Russie, des couloirs de vol pour suivre la Volga, par exemple. Et tout ce savoir-faire qu'ils ont ingéré sur ces 4 ans, aujourd'hui, ils peuvent le déployer à grande échelle, comme on peut le voir aujourd'hui.
Les Occidentaux aident l'Ukraine sur les drones.
L'Union européenne a débloqué encore quasiment 4 milliards d'euros
pour des drones
de pointe, quoi.
Tout à fait. Alors, en fait, il faut savoir que sur l'expertise au sens strict du drone, notamment du drone frappant en profondeur, c'est quand même un savoir-faire qui est ukrainien à la base. D'avoir réussi à créer ces drones low cost qui peuvent aller taper dans une telle profondeur et avec ce savoir-faire du coup et cette ingénierie de mise en place de ces opérations, parce qu'en fait c'est des sujets qui sont interarmes très vastes et qui sont planifiés des semaines voire des mois à l'avance. Ça aujourd'hui c'est un savoir-faire qui est ukrainien.
Et avec ces drones ils peuvent aller n'importe où sur le territoire russe.
Chaque drone a une portée différente. On a des drones qui peuvent avoir une portée 500 km, qui peuvent en avoir 1200. Aujourd'hui, on commence à avoir des drones qui peuvent avoir des portées jusqu'à plus de 2000 km et qui sont utilisés aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est tout un écosystème à développer.
Est-ce qu'il pourrait viser Poutine lui-même? En tout cas, ses résidences, les endroits où il se trouverait.
C'est une crainte qu'il a l'air d'avoir.
Après, la question, je pense, à se poser, c'est est-ce que c'est l'objectif des Ukrainiens aujourd'hui?
Non.
En fait, est-ce qu'aujourd'hui, ils veulent ne plus avoir personne face à eux pour négocier, pour entamer des négociations? Aujourd'hui, je pense qu'ils ne visent pas Poutine.
Mais ils pourraient le menacer, faire pression à bas de...
Je pense qu'ils se sont menacés actuellement avec toutes les frappes qu'on voit aujourd'hui à Moscou.
Ils ont des réserves, la réserve de drones.
Ils ont des capacités de production qui sont très fortes.
C'est-à-dire dizaines de milliers, c'est quoi?
En plusieurs centaines, ouais. sur les drones de frappe en profondeur, en plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, avec une production qui est très importante. Et en fait, l'idée qu'il faut vraiment intégrer, c'est qu'aujourd'hui, ce que l'Ukraine a fait, elle pourrait le refaire.
D'accord. Ulysse Gosset. Un Poutine affaibli, paradoxalement, c'est pas un Poutine plus dangereux qui pourrait soit utiliser son arme nucléaire, soit ouvrir d'autres fronts.
C'est le risque, effectivement. C'est évidemment la grande préoccupation des Occidentaux, des Européens en particulier, des pays baltes qui se sentent menacés, de la Pologne. Que va faire Poutine? C'est vrai que c'est un moment de faiblesse pour la Russie. C'est vrai que jamais les Ukrainiens n'avaient réussi à frapper la Russie aussi loin et aussi systématiquement pour affaiblir l'économie du pays. Je ne sais pas si on peut parler encore d'un tournant militaire. C'est vrai que les Ukrainiens ont reconquis à peu près 600 km² depuis quelques mois. C'était plutôt l'inverse jusqu'à présent, c'est la Russie qui progressait. Donc on voit qu'il y a un peu un renversement de tendance, mais est-ce que c'est un tournant? Il faut rappeler que l'Ukraine est bombardée...
Prudent sur le terme de tournant.
Oui, parce que si vous voulez, on n'en est pas là. L'Ukraine est bombardée tous les jours. Le mois de mai a été l'un des mois les plus terribles en Ukraine, avec les tirs de drones, les tirs de missiles, parfois des missiles hypersoniques qui causent des dégâts considérables, qui font des victimes.
Mais le front est figé ou il y en a un qui a plus l'avantage sur l'autre?
Donc si vous voulez, l'Ukraine a besoin encore d'armes pour se défendre, et en particulier de missiles. Et ces missiles, ils sont essentiellement aux États-Unis. Il faut qu'ils en aient suffisamment pour tenir après l'été, pour assurer que l'hiver ne soit pas à nouveau catastrophique et que les installations énergétiques ne soient pas détruites. Mais dans ce moment de faiblesse, effectivement, Poutine a 2 solutions. Soit accepter une négociation, soit l'escalade. Ce qu'on a vu dans son discours hier, c'est qu'il a, je dirais pas tendu la main à Donald Trump, mais il a laissé entendre qu'il était prêt à discuter et qu'il attendait, c'est le terme qu'il a employé, qu'il attendait les négociateurs américains à Moscou. Est-ce que ça va le conduire à négocier? Les experts en doutent. Mais c'est ce que Zelensky voudrait pousser Poutine à faire, c'est-à-dire l'obliger à conclure un cessez-le-feu. C'est ça que veulent les Ukrainiens. C'est un cessez-le-feu. Ils sont absolument pas du tout dans l'hypothèse d'un accord de paix ou quoi que ce soit, mais un cessez-le-feu qui pourrait permettre au pays de se reposer, parce que l'Ukraine est encore très affaiblie aujourd'hui. Donc, attention, à la possibilité effectivement d'une escalade d'un autre côté. Il y a des hypothèses comme par exemple des opérations de désinformation, de guerre hybride dans les pays baltes ou même dans les pays européens, de déstabilisation, d'opérations commando, etc. Donc toutes les hypothèses sont sur la table. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand Poutine se sent affaibli comme il l'est aujourd'hui, ça peut renforcer le camp des nationalistes et le camp des durs qui le poussent à frapper encore plus fort en Ukraine. Et pourquoi pas aller encore plus loin, peut-être aux Pays-Bas. Donc on est en situation qui est très incertaine, mais je dirais que le vent actuellement est plutôt favorable à l'Ukraine.
Nous sommes avec Sergueï Girnov, qui est là, l'ancien officier du renseignement du KGB. Bonsoir Sergueï Girnov. Voilà, vous avez entendu ce que disaient les uns les autres, mais franchement, est-ce qu'aujourd'hui Vladimir Poutine est vraiment sous pression et dans une phase délicate ou pas ?
Oui, effectivement. Poutine est sous pression. Poutine est sous pression non seulement en Ukraine par les armes, mais aussi sous pression politique par le camp extrémiste, comme l'a mentionné Ulis Gosset, par les nationalistes qui sont là pour faire de l'escalade dans la guerre. Vous savez, quand Ulis a passé à parler de pourparlers pour lesquels Poutine pourrait éventuellement s'ouvrir, il faut bien comprendre que Poutine ne veut pas avoir des pourparlers avec Zelensky, ne veut pas avoir des pourparlers avec l'Ukraine. Il parle de pourparlers avec les États-Unis, avec Donald Trump, avec les envoyés de Donald Trump, mais pas avec l'Ukraine.
Sergueï Girnov, est-ce qu'on peut imaginer quand même de l'intérieur que le pouvoir vacille ou pas ? Ou est-ce que c'est encore une illusion juste due au moment que l'on vit ?
Le pouvoir n'existe pas en Russie. Vous savez, c'est un paradoxe qu'on a vu il y a 3 ans, jour pour jour, pendant le rébellion de Prigogine. Quand Prigogine a commencé à faire sa rébellion et à partir vers Moscou,
c'était les forces Wagner.
Voilà, les forces Wagner, personne n'est sorti défendre Poutine. Et en réalité, ça montrait qu'il n'y avait personne pour prendre les armes. Le Parti Uni, dont vous aviez vu le congrès il y a quelques jours, où Poutine d'ailleurs n'est pas membre du Parti Russie Unie, mais il est le leader de ce parti. Et ben, ce parti d'un million de personnes n'a pas organisé, par exemple, les manifestations à bas les dangers contre Poutine, on va le défendre, etc. Donc, en réalité, ce pouvoir, il est sur le papier. Mais sur le papier, ça tient pour le moment. Et personne ne peut dire quand est-ce que ce pouvoir pourrait vaciller. Mais Poutine actuellement est critiqué frontalement, violemment, par beaucoup de personnes. Et les gens, vous avez entendu parler de cette blogueuse qui vit à Monaco. Elle a critiqué Poutine. Vous avez Ilya Remeslov, un autre blogueur de Saint-Pétersbourg, qui a critiqué Poutine et qui continue à le critiquer. Vous avez vu ce militaire qui a demandé à voir Poutine et qui a menacé Poutine en disant que sinon l'armée va tourner les armes contre le Kremlin. On l'a arrêté, donc actuellement il est en prison pour un arrêt administratif et puis après certainement il sera jugé parce que cette phrase-là elle va très très loin. Mais si vous regardez toutes ces petits détails qui sont là depuis 3 mois, on peut dire que finalement ce pouvoir il n'est pas si consolidé que ça.